Bon, Philippe, enfin une victoire à Philadelphie hier.
Oui, oui, puis un beau rebond après la performance vraiment très décevante du Canadien la veille au Centre Bell. Pourtant, Philadelphie, ça s'annonçait pas facile. Les Flyers venaient de battre les puissants Blues à Saint-Louis. Donc, ils attendaient le Canadien avec une brique et un fanal hier. Mais le Canadien, contre toute attente, a vraiment joué un très fort match. Pourtant, les Flyers marquent un but, prennent les devants 1-0. Thomas Tatar réussit à faire 1-1 avant la fin de l'engagement. Et là, au début de la deuxième période, le festival Ilya Kovalchuk commence.
Avantage numérique, le Canadien. Une passe dans le haut de l'enclave. Revient à la ligne 2. Weber, un lancé. Arrête Lyon. Un contre, un contre. Ilya Kovalchuk sur un retour de lancé. Après le tir effectué par Weber, le filet était complètement ouvert et sur la séquence, Nick Cousins a été blessé.
Il a été tellement vite, Kovalchuk, pour sauter sur la rondelle libre que je pense qu'il est même allé plus vite que Martin pour le décrire.
Ce qui n'est pas peu dire.
Ce qui n'est pas peu dire. Alors donc, c'était 2-1 pour le Canadien. Et là, ben ça prend le but qui va faire mal, là, qui va vraiment régler le cas des Flyers. Et c'est encore une fois, Kovalchuk, c'est pas lui. En fait, ça devient 3-1 et puis Kovalchuk va marquer le dernier but. On écoute ce but aussi.
Tatar maintenant, qui a marqué ce soir. Bagarre à 1 contre 1. Remet derrière le filet. Ça revient à Dano dans l'enclave. Kovalchuk, non, c'est contre! Il y a Kovalchuk, c'est son deuxième but du match. Et c'est 4-1 le Canadien. Encore la combinaison Tatar, Dano, Kovalchuk.
Alors 4-1, et bien évidemment l'affaire est entendue, mais ce but-là est tellement beau, Patrick. C'est un vrai lancer du poignet d'une trentaine de pieds dans la partie supérieure. Vraiment, quand on dit là, un gars qui est capable de lancer la rondelle. Alors je suis le premier étonné des performances de Kovalchuk. Franchement, je m'attendais pas à ça. C'est assez étonnant qu'à 36 ans, il soit encore capable de jouer ce type de hockey-là.
Et c'est une amende honorable qui t'honore parce que c'est ça, tu étais parmi ceux et il y en avait beaucoup qui doutaient du choix de Kovalchuk comme frappeur de relève.
Ah oui, tout à fait. Et puis, je pense qu'il y avait de très bonnes raisons de douter. Pas capable de gagner un poste dans une des pires équipes de la Ligue nationale. Reste à la maison pendant près de 2 mois. Et puis, revient au jeu comme dernière chance. Et franchement, il s'impose comme un des meilleurs joueurs de l'équipe. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est un peu inquiétant de voir qu'un gars comme ça qui arrive à 36 ans, qui n'a pas joué depuis aussi longtemps, est justement un des meilleurs joueurs de l'équipe. Mais en fait, on va savourer cette victoire.
Je le dis, Philippe, quand M. Byron et M. Jonathan Drouin vont revenir, tout va redevenir formidable. Je le garantis. OK, parlons de baseball et du scandale.
C'est évidemment, on a bien suivi ça, cette histoire de vol de signaux qui a donné lieu à tellement, tellement de péripéties dans le baseball majeur au cours des derniers jours. Il y a plusieurs gérants qui ont perdu leur poste justement parce qu'ils ont trempé dans cette affaire de signaux volés par les Astros de Houston. Donc, on essayait de prévenir le frappeur de quel lancer il aurait à affronter. Est-ce que ça allait être une rapide, une balle courte? Il faut bien expliquer là, que pour un frappeur, avoir cette information, le savoir que c'est une rapide ou un changement de vitesse ou une balle courbe, le savoir avant, c'est un avantage extraordinaire. Alors les sanctions ont été prises, mais voilà que a commencé à circuler hier sur le web une image très frappante de la série de championnats de la Ligue américaine de 2019, donc celle qui vient d'avoir lieu.
L'automne passé.
Ouais, entre les Astros de Houston et les Yankees de New York, l'affaire se règle au dernier match à Houston en fin de 9e manche. José Altuve frappe un circuit de 2 points et juste pour donner un peu l'ambiance à ce moment-là, on écoute ce circuit sur les ondes de ESPN.
Alors voilà. OK, c'est le coup de circuit qui les envoie en série mondiale.
Exactement, ça met fin au match. Et là, on voit Altuve qui contourne les buts. Puis là, quand il arrive au troisième but pour se diriger vers le marbre, il protège sa poitrine comme s'il voulait être sûr qu'on n'ouvre pas son gilet, parce qu'évidemment, tous ses coéquipiers vont sauter sur lui pour célébrer l'occasion. Puis il fait même signe avec son doigt, non, 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 non. Puis là, en continuant sa course vers le marbre, il se protège encore plus. Il a l'air de vouloir protéger un peu qu'on n'ouvre pas sa chemise. Alors là, il y a des gens qui commencent à dire qu'il avait à l'intérieur un récepteur électronique avec lequel on lui aurait envoyé des informations, disons avec une pulsion, il sait que c'est une rapide, 2 pulsions, une balle courbe, bon, etc., peu importe le code. Alors, évidemment, cette information-là, c'est pas vraiment une information, mais cette supposition-là fait le tour de l'Amérique. Altuve, hier, réagit, il dit « Jamais, j'ai jamais porté de récepteur sous mon uniforme. » Son agent, Scott Boras, qui est un des agents les plus importants dans le baseball majeur, l'agent le plus important, le défend également. Et le baseball majeur dit « Écoutez, on a enquêté parler là-dessus dans le cadre de notre investigation sur toute la tricherie des Astros de Houston. Et non, personne n'a porté de récepteur.
Okay, est-ce qu'on sait c'est quoi son explication pour dire à ses coéquipiers de ne pas le toucher?
Écoute, l'explication est vraiment n'a pas d'allure, très sincèrement. Il dit, écoutez, c'est déjà arrivé comme ça que mes coéquipiers, à la suite d'une belle victoire, ont déchiré un peu mon maillot. Et ma femme n'a pas aimé ça. Okay. Puis moi, je suis un gars un peu gêné. J'aime pas ça, pas avoir de maillot.
Tu viens d'envoyer ton équipe dans les séries mondiales sur un coup de circuit dramatique, puis ta préoccupation, c'est que tes coéquipiers ne déchirent pas ton linge en te sautant dessus.
Exactement.
C'est un peu niaiseux.
Oui, pas seulement un peu. Alors, j'ai l'impression que le baseball majeur va devoir réagir encore une fois, parce que là, c'est partout. Si tu écoutes ESPN, par exemple, ou tu vas sur leur site, le nombre d'articles qu'il y a là-dessus, c'est absolument incroyable. Alors, il y a un débat. J'ai l'impression que ça va continuer de faire jaser. Et juste pour te donner une idée, il y a des chiffres assez intéressants qui ont été publiés dans la foulée de tous ces événements-là. Et en 2017, donc ça, c'est vraiment l'année où les Astros ont triché, c'est documenté. Altuve, dans les séries de championnat, c'est-à-dire en séries éliminatoires, quand il était à la maison, devant ses fans, là où le stratagème de tricherie était bel et bien en place, il a frappé pour une moyenne de 472.
Ce qui est extraordinaire.
Ce
qui est surhumain au baseball.
Ouais, et à les matchs à l'étranger, 143. Donc, il frappait trois fois plus de coups sûrs à la maison qu'à l'étranger, où à l'étranger, il n'y avait pas de système.
Philippe, je veux juste faire une mise en contexte. Au baseball majeur, si vous frappez pour 300, ça veut dire que vous faites contact avec la balle 3 fois sur 10, vous êtes considéré comme un frappeur de puissance exceptionnelle.
25 millions par année.
À 400?
Ouais.
Là, je veux dire, on est dans le domaine de Superman.
Oui, évidemment, dans une courte période de temps, il en reste pas mal. Puis, bon, encore les circuits, 6 à la maison, 1 sur la route. Bon, les points produits, c'est la même chose. Donc, alors, c'est toutes ces informations-là là, qui commencent à être mises ensemble. C'est des informations qu'on connaissait, les statistiques, on les connaissait, mais à la lumière de tous ces faits-là, ça place le baseball majeur, Patrick, dans une situation extrêmement délicate.
Bon, parle-nous un peu d'Eugénie Tennis.
Eugénie s'est bien battue au tournoi des qualifications en Australie, on le sait, n'est pas invitée au tableau principal du tournoi qui commence à heure du Québec, je vous le rappelle, dimanche soir, le premier majeur de la saison. Donc, il fallait qu'elle passe par le tournoi des qualifications. C'est très dur, le tournoi des qualifications. Il y a 128 hommes, il y a 128 femmes qui passent par ce tournoi-là pour 16 postes de chaque côté. Donc, il faut qu'ils gagnent 3 matchs. Eugénie a gagné le match numéro 1, elle a gagné le match numéro 2, elle s'est bien battue. Mais hier, le dernier match qu'il fallait qu'elle remporte, elle a été incapable, elle a perdu contre une joueuse italienne en 2-7 de façon finalement assez convaincante, le 6-4, 6-3 contre Martina Trevisan. Et puis on verra si la jeune Québécoise Lila Fernandez, elle a encore une chance de se qualifier. C'est son match de troisième tour du tournoi des qualifications ce soir autour de 20h30 heure du Québec.
Merci Philippe, on te retrouve un peu plus tard à l'émission, 15h33. Catherine Beauchamp s'en vient, chronique showbiz.